Et on est en compagnie de Perrine Ostry dans les studios. Salut Perrine.
Bonjour.
Et bienvenue à Radio Campus Bordeaux.
Bah, merci de m'accueillir, je suis très très heureuse d'être là.
Mais c'est
merci
un grand plaisir
de m'avoir invité.
On va parler littérature d'un livre que tu as écrit puisque tu es auteur bordelaise. Ça s'appelle Le quartier des femmes savantes. Et on va tout décortiquer ensemble, Perrine, parce qu'on a envie de tout savoir sur cet ouvrage qui nous attend dès demain dans les librairies. Il sort demain, voilà,
actualité. C'est pour ça, on fait le lancement avec vous.
Et ben voilà, exactement. Donc avant toute chose, Perrine, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à l'écriture?
Ok, alors mon parcours, moi j'ai eu la chance d'être professeure de philosophie. C'est un métier qui m'a passionnée, que j'ai absolument adoré. Et dans mon parcours, il se trouve que j'ai eu aussi à affronter la maladie. Et c'est allongée, parce que je ne pouvais pas faire autre chose que d'être allongée, parce qu'il n'y avait que l'ordi qui était capable de m'accompagner en chambre d'hôpital, que j'ai commencé à écrire. Et après, ça ne m'a pas quittée. Et quand j'ai eu la chance de signer un premier contrat, je m'estimais très chanceuse. Et il se trouve que c'est un métier si... Enfin, voilà, j'ai pas pu conjuguer mes deux métiers, mais donc je suis plus prof de philo aujourd'hui. Mais quelque part, j'allie la philosophie, la psychologie aussi, que j'ai un peu enseignée et beaucoup étudiée, à la littérature que j'essaie de proposer.
Donc on retrouve quand même ton domaine.
J'ai quand même mes passions. Voilà, je suis, même si c'est mon métier premier, j'essaie d'aborder des concepts qu'on peut aborder en terminale avec son professeur de philosophie. C'est ça aussi qui m'intéresse. Voilà.
Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui l'écriture pour toi? Donc tu l'as dit, tu t'es mise à écrire quand tu étais malade. Aujourd'hui, je l'espère, tu es en bonne santé. Donc qu'est-ce que ça représente ce travail d'écriture?
Ça représente beaucoup. Peut-être que ça permet Enfin, ça représente énormément de travail en fait. Déjà, ce que ça représente, c'est ça. Ça représente un travail qui est colossal. Beaucoup d'heures pour écrire un manuscrit, beaucoup d'heures pour le corriger, beaucoup d'heures pour le promouvoir. Voilà, donc c'est aussi un investissement à temps complet. Et du coup, c'est quelque chose qui, je pense, tous les écrivains vous diront que quand ça anime, quand c'est ça qui vous anime, tout le temps en fait, c'est quelque chose, vous endormez avec, vous avez votre petit carnet sur votre table de chevet, vous êtes accompagné par l'écriture perpétuellement en fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne, c'est peut-être ma compagne, mais en tout cas voilà, l'écriture c'est plutôt toute ma vie.
Donc c'est comme être doctorant en fait, on pense tout le temps à écrire, on note
on
tout.
On rêve, vous savez,
on rêve de ça.
Les personnages, on se dit, mais elle, j'ai terminé ce chapitre, il se passe ça, non, c'est mieux, c'est-à-dire que voilà, on n'a aucun répit. Et à la limite, même finalement, quand on a terminé un ouvrage et qu'on le donne, qu'on le soumet à une maison d'édition, il n'y a pas de répit parce qu'on est dans une anxiété folle de savoir si on va être signé ou pas. Et puis ensuite, si on a la chance d'être signé, c'est merveilleux. On n'est pas dans le répit parce qu'on corrige le livre. Et puis ensuite, on n'est pas dans le répit parce qu'on promeut le livre. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement chronophage et qui prend, vous dites comme un doctorant, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, on rêve, on pense, on réfléchit, on regarde la télé, on va au cinéma, on se dit ça peut me servir, ça c'est parfait, là on prend le carnet, on écrit, on est.
Mais d'ailleurs tu qualifies le cycle du cheminement de parution d'un livre de parcours du combattant, c'est vraiment parce que c'est des étapes qui finissent jamais, puis une charge mentale aussi qui est constante.
C'est un très bon concept, ça, cette idée de charge mentale, ça me plaît beaucoup, parce qu'effectivement c'est une charge mentale constante, c'est très bien dit, bravo, c'est tout à fait ça.
Mais est-ce que ça reste agréable quand même d'écrire?
Mais c'est une très très bonne question parce que c'est un tourment d'écrire, puisqu'en fait on est toujours en train d'écrire une ligne, de la réécrire, d'écrire un chapitre, de se dire bon, il faut pas que j'y touche, c'est ça le plus dur en fait, d'essayer de se dire ça c'est bien, il faut vraiment plus que je corrige. Mais quelque part on est toujours dans le tourment de mieux faire, est-ce qu'on a bien dit, est-ce que ce qu'on a voulu faire comprendre, est-ce qu'on passe à côté ou est-ce qu'on ne passe pas à côté, enfin oui il y a quelque chose de l'ordre du tourment, mais il y a quelque chose de l'ordre du plaisir, voilà, quand on est toute seule à son bureau avec ses millions de fiches sur tous les personnages, la chronologie, etc., devant son ordi, c'est le pied.
Perrine, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ton précédent ouvrage, le premier, Rouge Fusion?
On peut.
Alors, qu'est-ce que tu nous transmets dans ce premier ouvrage ?
Je dirais, alors, c'est pas mal qu'on l'aborde. Je veux bien qu'on aborde ce premier roman aussi pour dire en quoi il peut être différent du second.
C'est exactement là où je voulais t'emmener.
Mais je vous vois tellement
tu
venir.
Tu vois les grosses ficelles
sais,
un
je
peu.
Je comprends. voilà, j'ai cette intuition-là. Non, effectivement, peut-être que le premier roman parlait de quelque chose qui était l'incarnation d'une passion, qu'est-ce que c'est qu'un amour incarné, qu'est-ce que c'est, ça m'intéressait beaucoup l'idée de l'incarnation. Moi, j'ai fait mes études ici, j'ai travaillé beaucoup sur les écritures saintes et voilà, l'incarnation, vous savez, l'Eucharistie, enfin, même quand on mangeait le corps du Christ, c'est quelque chose qui, depuis petite, c'était quelque chose qui me travaillait. Bon, du coup, voilà, quand on est avec son aimé, son partenaire, partager, je sais pas, moi, ça couche, ça salive, ça, c'était des choses qui j'avais envie d'écrire un livre dessus. Mais le corps, c'est j'allais dire, c'est un concept, c'est quelque chose qui, c'est un thème qui m'intéresse énormément et que j'avais envie de creuser absolument. Et pour du coup dire une sorte de faire un parallèle tout en expliquant les différences entre ces deux romans. Parce que j'ai eu la chance que ce premier roman marche bien. Et je vous remercie tous, parce que le livre, quand bien même c'est du travail, etc., bah c'est, en fait, il ne marche que grâce aux lecteurs, en fait, aux librairies, à la chaîne du livre. C'est les libraires et les lecteurs. Donc, c'est merveilleux de savoir qu'on a travaillé sur quelque chose qui marche. Et Rouge Fusion, c'était un huis clos. Il n'y avait que deux personnages, Anna et Jackson. Et donc, c'était un thème que j'essayais d'exploiter à fond, dans l'idée de n'avoir que deux personnages et un huis clos. Du coup, pour ce deuxième roman, j'ai voulu qu'il y ait un récit complètement bigarré. J'ai voulu qu'il y ait des personnages très chamarrés. J'ai voulu qu'il y ait énormément de personnages. Et du coup, je voulais, pour ce deuxième roman, qu'il n'y ait pas du tout que deux personnages, vous l'avez compris. Et je voulais que ça parle du corps. Mais c'est que ça parle du corps en essayant de montrer toutes les facettes, en fait, de la problématique, soit du charnel, soit habiter son corps, se réapproprier son corps, peut-être après un accident, peut-être après une fausse couche, peut-être après un avortement. Donc, voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée, et ça, c'est un truc que j'ai depuis petite, et que sûrement vous êtes beaucoup à avoir, quand vous baladez le soir et que vous regardez, quand c'est la nuit, que vous regardez les lumières chez les gens dans des immeubles et que vous vous dites « Oh là là, mais c'est fou, tous ces gens qui sont là, ils se connaissent pas, ils sont peut-être pas rencontrés, ils connaissent pas l'histoire, les récits de chacun et pourtant ils vivent au même endroit. » Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler d'une rue et je voulais parler de tous les habitants de cette rue pendant un an où on allait, comme ça, aller de palier en palier pour essayer de comprendre le fonctionnement de chacun dans son rapport au corps. Est-ce que, je ne sais pas, on a un couple qui va très bien, ou en l'occurrence, par exemple, je parle juste du début du roman, y a eu le confinement. Donc on va avoir un couple en fait, où le confinement, ça a été quelque chose de terrible, où ils se sont dit, moi, passer 24 heures avec ma partenaire de vie, ça ne va pas être possible, en fait. Et je ne pouvais être en couple que parce qu'elle était loin. Maintenant qu'elle télétravaille, on est là tous les deux. On ne va pas se supporter, ça ne va pas être possible. Donc, comment on gère une proximité des corps, une hyper-proximité et je voulais comme ça aller de palier en palier. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire... c'était de situer cette rue au CHU de Pellegrin. Et comme c'est une fiction quand même, je voulais faire intervenir voilà, la création d'un centre de kiné. Aussi parce que voilà, la rééducation, c'est quelque chose qui est important pour moi et qui me suit pas mal, hein, qui est hebdomadaire. Du coup, cette idée de se réapproprier son corps avec la kinésithérapie, etc. Et donc d'aller de palier en palier pour découvrir le rapport au corps de chacun. Et puis pour finir, peut-être dans un cabinet de kiné qui sera le théâtre voilà, d'un récit un peu en mosaïque où tout le monde va peut-être soit se rater, soit se rencontrer. Voilà, c'était un peu ça l'idée.
Donc voilà, là on est à l'inverse du huis clos, comme tu l'as
c'est
dit.
Ça.
On suit à travers des tranches de vie plusieurs personnages. Il y en a plein d'ailleurs, donc il y a Miranda, il y a Natacha, il y a Rodolphe, Pierre, Ariane, Jade... Qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement, sans trop en révéler évidemment, sur ces personnages?
Sans trop en révéler, bah, je peux vous dire que comme il me fallait vraiment trancher et avoir des choses qui étaient extrêmement contrastées, on peut avoir par exemple quelqu'un qui est, je vous parle d'un personnage que j'aime énormément, qui s'appelle Marguerite. Elle, elle est nudiste. Voilà. Donc elle, elle a un rapport au corps. En plus, elle est obèse. Elle est nudiste et obèse. Et elle, elle est dans une liberté, une spontanéité totale. Je peux vous parler de Natacha, puisque vous l'avez citée, et que c'est un personnage important dans le roman, qui, elle, va être victime de la prostitution en ligne, qui est vraiment extrêmement marquée à partir de mars 2020, avec des choses comme OnlyFans ou des choses comme ça, et qui, du coup, voilà, le confinement, c'est un petit peu, si vous voulez, sur les victimes collatérales d'une épidémie mondiale, et sur cet aspect très pluriel, en fait. Donc, par exemple, je peux vous parler de ça. Sachez qu'il y a des personnages vraiment très différents. Il y a des personnages pour qui le confinement, c'était merveilleux. Il y a une femme pour qui le confinement, c'était effectivement merveilleux, parce qu'enfin, elle devait ne plus faire la bise aux gens. Et ça, c'était quelque chose qui lui était très pénible. Donc, c'est aussi de parler de tout ça. Et moi, ce qui m'importe aussi, c'est plutôt de parler de ce dont on ne parle pas vraiment. Par exemple, cette histoire un peu taboue de cette explosion d'OnlyFans, où techniquement, voilà, on ne pouvait rien faire. On avait la prostitution qui ne pouvait plus exister sous cette forme qui était extrêmement connue. Donc, on a eu des dérives et on a eu des victimes collatérales. Et il fallait en parler. Enfin, moi, il me semblait qu'il fallait en parler. Et parce que, j'en profite, parce que je sais que ça va être la fin, vous m'avez dit que ça filait très vite.
Ah, pas du tout, il reste encore plein de... Ah, tu vas pas te défiler comme ça, Perrine, je te garde encore.
mais par exemple, je sais que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et du coup, je vais partir dans les lycées, en fait. Je vais essayer de mobiliser... Enfin, en tout cas, d'intervenir en lycée pour parler de cette surexposition de sa personne sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, je vais aller à la rencontre. Je vais, par exemple, commencer avec... à Lormont, à la rentrée. Voilà, j'ai des petites choses comme ça, de parler du corps et de parler de l'exploitation du corps, ou du fait de se mettre ou pas, de se déshabiller chez un kiné, est-ce que c'est facile ou pas, de se réveiller en pyjama quand on vient d'être opéré dans une salle de réveil, est-ce que c'est facile ou pas. C'est ça, mais c'est pas que ça, mais en tout cas, c'est, voilà, l'idée c'est que c'est polymorphe.
L'idée, c'est de poser des questions du point de vue psychologique et philosophique, et essayer d'y répondre, en tout cas échanger autour.
Voilà,
avec toi, Perrine.
C'est exactement ça.
Et pour ces personnages donc, qu'on retrouve dans le quartier des femmes savantes, t'as puisé où ton inspiration? Est-ce que c'est de ton imagination, des gens que tu connais, de ton expérience?
Mais ça, c'est une excellente question.
Ah, mais merci beaucoup.
Alors ça, c'est une excellente question. Il y a un peu de tout. Je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a forcément... j'espère, l'idée, si avec le roman numéro 1, je ne parlais que d'un type de couple et qu'il n'y a que certaines personnes qui ont pu se reconnaître, l'idée avec le roman numéro 2, effectivement, Le quartier des femmes savantes, c'est qu'on puisse faire jouer une identification subjective et qu'on puisse se dire, mais ça c'est tout, ça c'est ma belle-sœur, ça c'est ma voisine, ça c'est... Voilà, et qu'on puisse... voilà, donc du coup, bon, il y a un peu... Il y a un peu de tout, ouais. Je pense qu'il y a, un peu de patients, il y a un peu de soignants. J'ai vu beaucoup de soignants, donc quand bien même c'est une fiction, voilà, je m'inspire beaucoup. Et je vous dirais, pour être en toute transparence, hein, la réalité, elle dépasse la fiction, en fait. Donc quand on est effectivement, quand on passe sa vie, par exemple, dans une salle d'attente à Pellegrin, admettons une salle d'attente pour ne pas parler des urgences ou autre chose, on voit, voilà, si on est attentif et qu'on a une semaine et qu'on se dit j'ai envie d'écrire quelque chose, je vais aller voir quelles sont les personnalités de... Il suffit de s'asseoir sur un banc, en fait, et on chope tout. Les couples, leur manière de se disputer, comment les gens se rapportent à leurs enfants, comment ils les protègent ou pas, comment ils se font la bise ou pas, ce qu'ils disent. Et donc si on est là avec un petit carnet, ben, on peut s'inspirer de tout ça et avoir plein de personnages.
Alors sur le site de ton éditeur, Terre de l'Ouest, ouais. on voit que c'est, il est labellé roman policier, ton dernier livre.
D'accord.
Mais en parlant avec toi, j'ai pas l'impression. En tout cas, ça ouais. correspond pas à l'image que j'ai du roman policier.
Ouais. Non, non, il l'est pas du tout.
Ah voilà, on
parce
est d'accord.
Que... Non, je crois. En fait, il se trouve que alors Terre de l'Ouest sort une nouvelle collection de littérature générale avec ce livre, Le Quartier des Femmes Savantes. Et je crois qu'il est catégorisé roman psychologique. Enfin, c'est un genre compliqué en fait parce que c'est de la littérature générale qui est dite littérature blanche et en même temps, voilà, on mêle. Moi, l'idée c'était d'y parler de la pudeur, de comprendre est-ce qu'il est facile de se déshabiller. Enfin, ça, ça m'intéressait. Est-ce qu'il est facile de se déshabiller, que ce soit avec un médecin, un kiné, son amant? Quelqu'un qu'on a envie, qui devienne son amant, ou voilà, est-ce que c'est dur ou ça l'est pas? Du coup, je m'interroge pas mal, et je pense que c'était, il y a peut-être pas trop de catégories, enfin, on va dire que c'est de la littérature générale, mais c'était peut-être compliqué, mais ça n'est pas du tout un roman policier. Personne ne, enfin, si, des gens meurent.
Ça
mais
va,
il n'y a pas d'enquête. Là-dessus. Ah si, là, je vous ai fait un énorme spoil. Là. Je suis désolée, mais des gens meurent. Mais je ne vous dis pas qui c'est. Il y a beaucoup de personnages, vous inquiétez
pas. Voilà, c'est pour ça. Non, c'était juste pour éclaircir cette histoire. D'ailleurs, puisqu'on en parle de Terre de l'Ouest, donc ton éditeur, pourquoi tu l'as choisi en particulier, celui-là? Qu'est-ce qu'il te permet par rapport à d'autres?
C'est une question que j'ai abordée à la Médiathèque des Étoiles. Je salue la Médiathèque des Étoiles et toute l'équipe. C'est une question que j'ai abordée parce que j'ai fait une conférence sur la difficulté aujourd'hui d'être édité. Qu'est-ce que c'est que de faire un manuscrit, de l'envoyer à des maisons d'édition et puis d'avoir des refus ou d'avoir des contrats. Enfin, quand c'est merveilleux, voilà, on a un contrat, on a une proposition de contrat. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on signe? Normalement, enfin, si on a une proposition de contrat, on saute au plafond, on sabre le champagne, peut-être, on est voilà. Mais ensuite, voilà, il faut le lire. Et comme j'ai eu quelques propositions de contrat pour celui-là, j'ai effectivement fait au mieux. C'est-à-dire que c'était clairement la meilleure des propositions qu'on pouvait me faire. Et quelque chose qui était intéressant, c'était aujourd'hui, il y a une bataille entre le livre papier qu'on appelle broché, disponible en librairie, etc., et les numériques. Et voilà, vous avez des maisons d'édition qui vous proposent que du numérique et vous avez des maisons d'édition qui vous proposent que du broché. Donc il faut déjà réussir à avoir ça en tête. Enfin, après, c'est peut-être que le numérique, c'est l'avenir. Hein. Mais...
Tu tiens au...
Ouais, je pense... Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a... Enfin, les romantiques, ils vous diront que... de se trimballer avec son petit livre qu'on a écorné, Moi, j'ai eu le souvenir, alors je ne sais pas du tout si elle pourra m'entendre, mais j'ai le souvenir d'une lectrice qui est venue me voir en dédicace à la librairie Martin Delbert, et elle avait, vous savez, avec des post-it, avec des stabilos couleurs, etc. Elle m'avait dit, voilà. Et pour elle, c'était quand je lui ai dédicacé cet exemplaire-là, qu'il avait accompagné partout, et que c'était hyper émouvant. On a pleuré. Mais voilà, donc un livre papier, c'est quand même... Je sais pas si on peut stabiloter un livre numérique.
Oh oui, je crois qu'il y a des outils, mais c'est pas pareil. Ouais. Ça fait pas scritch-scritch sur le papier.
C'est peut-être moins... Il y a peut-être une espèce de, je sais pas, un désir comme ça.
C'est ça, voilà.
On entoure, on met ces petites marques, des petites étoiles. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est des romantiques hein, qui... Moi, je suis une romantique, alors moi, je suis très papier.
Je voudrais revenir avec toi, Perrine, sur le propos de ton livre, donc le quartier des femmes savantes, pardon. Tu souhaites donc proposer, à travers la fiction, une analyse psychologique sur les violences faites par les femmes aux hommes.
Alors, pas du tout.
Pas
non,
du tout.
Ça, okay. Alors, mais ça, c'est une information qui est bonne quelque part.
Ok.
Bravo, voilà.
Parce que
non, ça, c'était l'enjeu du premier roman.
Du premier roman.
Voilà,
d'accord.
L'enjeu du premier roman, c'était effectivement de... puisque je suis toujours un peu en train d'essayer de rechercher des choses dont on parle pas vraiment, des trucs peut-être pas... Enfin, un peu tabous. Donc à l'époque, quand j'ai sorti Rouge Fusion, que j'avais du coup écrit 2 ans auparavant, le temps après qu'il soit signé, qu'il sorte, etc., c'était pour parler... Alors d'abord, c'était pour parler de l'incarnation de la passion, comme je l'ai dit, mais c'était aussi pour parler... pourquoi pas, des violences, mais changer de regard sur les violences, et pas les violences faites aux femmes, mais les violences conjugales où la femme va être l'auteur, en tout cas, va être à l'initiative d'une certaine violence dans le couple. Et ce qui m'intéressait, c'était d'analyser ce que pouvait être violence, en fait. Est-ce que... Puisque pour celui-là, par contre, j'avais fait une enquête auprès des commissariats de police municipale, je précise, dans la métropole. Et j'avais demandé, donc, avant de l'écrire, j'avais demandé, bon, qu'est-ce que c'est violence conjugale ? Est-ce qu'une femme qui jette son verre de vin à la tête de son mari, c'est de la violence ? Et on m'avait dit, pas du tout, enfin, c'est pas du tout de la violence. Une violence, c'est très simple, il m'avait dit, la police me disait, c'est une main fermée et le visage. Et si c'est pas une main fermée et le visage, c'est pas de la violence, on nous appelle pas. Du coup, voilà, moi, le but dans ce livre-là, c'était d'essayer de décliner un petit peu, de voir... Où pouvait peut-être commencer la violence ? Est-ce que d'essayer de peut-être pas d'empoisonner son compagnon, mais en tout cas de lui faire à manger en sachant que ça va le rendre malade, qu'il a peut-être un allergène ou que ce genre de choses-là que moi j'estimais en fait être déjà le départ d'une violence. Voilà, c'était en parler. C'est toujours ça en fait l'idée, c'est en parler en fait. Il existe quelque chose, peut-être qu'on c'est pas énormément médiatisé, mais quand même il faut en parler. Et quand le livre est sorti, il est sorti en juillet, et en octobre 2021, on a changé les choses. Et je sais que Pellegrin, où je suis allée pour présenter le quartier des femmes savantes il y a 10 jours, était important pour moi, parce que dans ce complexe hôtelier, il y a aussi le Charles Perrins. Et Charles Perrins a été les premiers à faire un groupe de parole dédié aux auteurs de violences, quel que soit leur sexe, en disant bah, vous êtes auteur de violences, vous êtes une femme, venez, on peut parler de vos raisons. Voilà.
D'accord, très bien. C'était pour.
C'était un peu ça l'idée du 1.
D'ailleurs, le quartier des femmes savantes, mm-hmm. tu le dédies à quelqu'un en particulier, ou tu aimerais, ou c'est vraiment pour tout le monde ?
Alors, c'est absolument pour tout le monde, mais je vous laisse l'acheter. Parce que vous verrez, il y a une page de remerciement, une page de dédicace, une page d'hommage. Ouais, c'était quelque chose qui était important pour moi de faire sous cette modalité-là, mais vous comprendrez. Il vous suffira d'ouvrir la page numéro 2, vous comprendrez, ça vous parlera à mon avis. Voilà.
On pourra se le procurer dès demain. Alors ouais. Dans quelle librairie ?
Eh ben, je peux citer quelques librairies qui sont qu'on a la chance, enfin qui sont partenaires avec nous, qui sont de super librairies. Par exemple, la librairie Georges, la librairie Mola, la Machine à lire. Mais en fait, je vais pas faire ça parce que sinon, je vais. Il y a des gens qui vont me dire, mais comment ça, c'est pas possible que tu nous aies pas cité. Je pense au Passage des mots aussi. Ou voilà, on a quelques librairies qui sont ici, le Pavé dans la Marge à Mérignac aussi. On a des grosses et belles librairies dans le coin qui de toute façon vont être partenaires avec nous pour ce livre, et on pourra se le procurer, mais normalement dans n'importe quelle librairie. Et puis j'ai oublié Fnac, Cultura, je vous remercie, je suis à la Fnac et à Cultura dès la semaine prochaine. Donc merci Cultura, merci la Fnac, mais enfin voilà, oui, non, en fait il existe, il vous suffit d'aller voir dans votre libraire si c'est... La librairie La Petite Mezzanine au Bouscat, que j'adore aussi.
Donc voilà. On pourra se le procurer facilement, le quartier des femmes savantes.
Voilà.
Bah, merci beaucoup Perrine Ostry d'être venue à Radio Campus, de nous avoir présenté en détail ton livre et puis ton parcours.
Bah, merci, ça me fait très plaisir.
Et
vous êtes hyper bien situé quand même.
Oui, on a de chouettes locaux, on a une belle vue sur le campus en hauteur.
C'est magnifique.
Il fait chaud, mais on profite bien quand même.
On est super bien. On est super bien sur Radio Campus quand même.
J'ai quand même une dernière question pour toi avant qu'on se quitte, parce que c'est l'été, les vacances approchent à très grands pas. Oui. Si tu devais glisser un seul livre dans ta valise pour les vacances d'été, ce serait lequel ?
Un seul livre ?
Pas facile.
Oh punaise. Mais en plus, moi je suis une vieille de... Moi je prendrais un Balzac, mais je... Ou alors La Nuit des Temps de Barjavel. Non, c'est trop compliqué comme question. On ne peut pas prendre qu'un seul livre.
Ou alors on prend une Kindle et on met plein de livres dessus.
Ah voilà, mais bien sûr, pourquoi n'ai-je pas pensé à ça tout de suite ?
Ça peut être une solution, mais moi je préfère lire aussi sur papier. Je te rejoins là-dessus, Perrine.
En tout cas, merci.
Je te remercie encore beaucoup. C'était très agréable. Et puis j'espère que les rencontres seront belles et les ventes sont bonnes aussi.
Je vous remercie, ça le sera.
À très bientôt, Perrine.
Merci beaucoup.